Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse au chapitre 5, Genèse chapitre 5, tout chapitre. Parce que, en tout cas, on va voir pourquoi tantôt on l'étudie pas. Bien sûr, on pourrait l'étudier en différentes sections, mais on va étudier aujourd'hui tout chapitre. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut, après la naissance de Kénan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, 840 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methuselah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methuselah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 770 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Je ne sais pas si vous avez connu du monde ou si c'est votre marotte d'aller faire des tours dans les cimetières. Moi, dans ma famille, personnellement, je vous dis, je ne suis pas très amateur de visite de cimetières. Même j'ai horreur de ça en général. Mais je connais des gens dans ma famille qui, pour eux, c'est comme un plaisir d'aller dans les cimetières, pas parce qu'ils prennent plaisir à l'endroit comme tel, mais à cause du fait que la mémoire, hein, on voit des monuments, mon père est ici, ma mère est ici, mon frère, ma soeur, et il y en a qui prennent un plaisir. Je connais des gens qui, à toutes les années, ils vont au cimetière et ils font le tour des pierres tombales. Et le titre que j'ai donné au chapitre 5 aujourd'hui, au message, c'est « La visite du cimetière d'Adam à Noé ». Parce que c'est ça qu'on voit. D'à partir d'Adam, qui se rend jusqu'à Noé, et je trouve que cette partie-là, la visite du cimetière, là-dedans, Noé, c'est révélateur du caractère de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir au cours du développement de cette histoire-là. Ce que j'aimerais faire une remarque aujourd'hui concernant les chapitres où il y a des généalogies. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les premières fois que vous avez lu les Écritures, que vous tombez sur des chapitres comme ça, où c'est des longues énumérations de noms, souvent on est comme porté à glisser par-dessus, et de ne pas reconnaître la richesse et tout l'enseignement divin qu'il y a à travers de ça, et aussi l'utilité de ces passages-là. Parce que souvent, on est porté à se dire, ben là, ça me donne quoi de lire toute une série de noms? Un peu comme quand on arrive dans un chronique, là, je ne sais pas si vous avez, quand vous arrivez dans cette section-là, souvent, on sera porté à quasiment comme passer par-dessus. Pourtant, quand quelqu'un se donne la peine d'étudier ces passages-là en profondeur, ces passages-là sont révélateurs de grandes, grandes vérités et d'une grande richesse. C'est un peu ce qu'on va voir ce matin. Alors, quand on lit un chapitre comme le chapitre 5 de la Genèse, ça nous donne l'occasion de réfléchir sur la place des généalogies dans les Saintes Écritures, leur importance et l'attitude qu'on se devrait d'avoir devant ces passages-là. En général, je dirais que notre attitude est un peu manquante à cause du fait que les Écritures nous disent que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, quelque part, ça comprend les généalogies et ça a beaucoup d'utilité. Cependant, à cause de notre faiblesse, qu'on y voit juste que des noms, et souvent, on ne se donne pas la peine d'aller voir les significations des noms. On va voir au cours du développement de notre leçon d'aujourd'hui que quand vous mettez les noms, les 10 noms qui sont mentionnés, des patriarches qui sont mentionnés dans cette section des Écritures-là, sont d'une richesse. Les deux bras te tombent à terre quand tu les découvres. Alors, c'est rien pour démontrer que notre attitude face aux Écritures, à toutes les Écritures, pas juste les... Il y en a qui sont portés, par exemple, à lire juste le Nouveau Testament, ou sont portés à rester toujours dans certains chapitres qui font leurs affaires, qui aiment bien. Mais les Écritures nous disent que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, donc toutes les Écritures sont riches. Et quand on a... Il faut garder la bonne attitude d'avoir le respect envers la parole de Dieu. Dieu n'a pas permis que ces passages-là soient insérés dans les Écritures pour rien. Pas pour nous ennuyer, parce qu'il y a des raisons particulières pour le faire. On va en regarder quelques-unes tantôt. Si je vous disais, je vous disais de me donner les utilités des chronologies, vous me répondriez quoi? Premièrement, l'utilité, c'est qu'ils établissent une chronologie biblique. Autrement dit, si on les étudie d'aplomb, on peut facilement dire que la théorie de l'évolution est fausse parce que toute la chronologie, le temps qui est enseigné à l'intérieur des chronologies, peuvent vraiment carrément nous aider à se défaire. Parce que si on croit, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les cartes qui est en bas, la grosse carte qu'on a faite laminer, là. Si vous regardez là-dedans, c'est vraiment un portrait de la, je dirais, de la Terre jeune. Autrement dit, quand on croit à la Bible et qu'on regarde toutes les généalogies, ça ne peut pas être des millions d'années. Ça peut être encore moins des milliards d'années. C'est des milliers d'années. Alors, si on suit la généalogie, ça peut nous amener à refuter certaines fausses doctrines qui sont immensément populaires de nos jours. Donc, utilité 1. Aussi, deuxième utilité, pour les Juifs, les généalogies avaient une importance capitale. Pourquoi, vous allez me dire? Bien, pour la simple raison que c'était par les généalogies qu'on pouvait dire « Mon père était juif, le père de mon père était juif », ça amenait la preuve de ta lignée du peuple juif. Non seulement ta lignée, mais le Seigneur voulait que chaque tribu garde l'origine de quelle tribu tu viens. Aujourd'hui, peut-être que ça s'est perdu chez les Juifs, mais à l'époque de l'Ancien Testament, c'était d'une importance capitale de savoir, moi, je suis Juif, parce que, et je viens de la tribu de un tel. Pourquoi, par exemple, on va prendre un exemple. Dieu avait prophétisé que Jésus serait de la tribu de Juda. Alors, il fallait, quand on regarde, par exemple, Matthieu 1, Luc 3, les premières choses qui sont mentionnées concernant l'origine de Christ, c'était qu'il fallait que tu puisses déterminer qu'il venait de la tribu de Juda. Alors, c'était très important pour les Juifs, non seulement d'établir leur nationalité, établir l'origine de quelle tribu ils venaient dans les 12 tribus, et aussi pour leur donner le droit d'exercice de certaines choses qui étaient des honneurs à l'époque. Être sacrificateur, t'as pas n'importe qui pouvait être sacrificateur. Fallait être membre de quelle tribu? Les tribus de Lévi. Alors, il fallait être des tribus de Lévi, et tu ne pouvais pas devenir sacrificateur si tu n'étais pas de la tribu de Lévi. Et les Écritures nous montrent dans l'Ancien Testament qu'il y a eu des rois qui ont voulu se faire sacrificateurs et qui n'avaient pas le droit à la sacrificature et que le Seigneur les a jugés en leur donnant la mort. Alors, c'était important, non seulement, et c'était important aussi pour le droit à la souveraine sacrificature. Le souverain sacrificateur, c'était celui qui avait le droit de rentrer une fois par année dans le Saint des Saints. Tout ça venait de leur généalogie. Si tu ne pouvais pas démontrer que ton père est un Lévite, et toutes ces choses-là qui étaient mentionnées dans l'Ancien Testament, alors ça avait ce but-là. Et ça avait un autre but, le droit de succession à la couronne. Qui pouvait être roi? Il y a des descendances, même aujourd'hui encore une fois, en Angleterre, en France, ceux qui ont encore la royauté, tu ne peux pas devenir roi comme tu veux, là. C'est de famille, puis il faut que tu puisses démontrer tes racines et tout ça. Alors, le droit de succession à la couronne, ça servait à ça. Et ça servait aussi le droit de succession à la souveraine sacrificature. Et ça te donnait le droit à la direction d'une tribu. Ça a l'air de rien, comme ça, on mentionne ça, on lit ça, puis on oublie toutes ces affaires-là. Mais quand on lit les Écritures et qu'on les étudie d'aplomb, toutes ces choses-là sont bien là. Alors, est-ce que les généalogies servent à établir la légitimité de la lignée royale du Messie promis? Oui, parce que si vous allez dans Matthieu 1, vous étudiez le passage, alors on parle des 14 générations, on parle, il se rend jusqu'à Abraham pour Matthieu, mais Luc, lui, il fait différemment, il va jusqu'à Adam. Les deux ont pour but de démontrer que le Messie est une lignée avec plusieurs choses qui étaient prophétisées de lui et qu'il fallait que ces choses-là s'accomplissent, sinon les Écritures auraient été du mensonge. Alors, servent à établir la légitimité de la lignée royale du Messie. Alors, nos attitudes face au passage généalogique doivent être changées en les respectant, premièrement, en les lisant attentivement, en les étudiant. Parce qu'on va voir ce matin, on va découvrir des merveilles, et il n'y a que l'étude qui permet de découvrir ces choses. Alors, vous me direz, hein, pour le fun, là, si vous l'avez déjà lu, tant mieux pour vous autres, vous avez été bénis, mais si vous ne l'avez jamais entendu, on va voir certaines choses juste avec les noms. Que toute l'histoire du salut est inscrite dans les noms. C'est pas merveilleux, ça? On va voir ça tantôt. Alors, bien sûr, quand il faut qu'on travaille sérieusement parfois sur certains passages pour en faire sortir toute la richesse et toute la beauté. Et certaines portions des Écritures ne se laissent découvrir qu'après une étude sérieuse et approfondie. Mais on en est toujours richement béni quand on le fait. Alors, on va examiner maintenant, on a dit que la visite du cimetière d'Adam à Noé, c'est une longue période, comment ça vient révéler le caractère de Dieu? La première révélation, je dirais que ce passage-là, la visite du cimetière, est révélatrice de la fiabilité de la parole de Dieu. On va, ça, ce serait la section des 20 premiers versets. Alors, si on veut apprécier comment tout ça se développe là, et pourquoi Dieu permet ça, c'est parce qu'il veut qu'on voit comment il va amener éventuellement le Messie promis. C'est par la succession des noms. Et là, on va se rendre jusqu'à Noé. Après ça, on va aller de Noé à Abraham. Après ça, on va aller d'Abraham et plus loin. Et le Seigneur permet qu'on puisse suivre ce qu'il avait promis est arrivé 2000 ans après. 2000 ans, c'est long. Et si on n'avait pas ces passages-là, on aurait de la difficulté à savoir comment tout ça s'est transmis puis comment ça s'est fait aussi. Alors, mais il y a une promesse que Dieu avait faite dans Genèse 3:15. Mais la promesse, on le sait, Ève avait été portée à voir que son premier fils serait la réalisation du Messie. Et plus tard, tout au cours de l'histoire de l'Ancien Testament, la fameuse attente de la venue du Messie était présente. Et souvent, les générations ont pensé, ben, c'est nous autres qui va le voir, le Messie, puis c'est le monde qui va le voir. Et quand on arrive dans Luc, quand on regarde, le fameux prophète a vu la naissance. Imaginez-vous pour eux, là, ils se sont fait promettre Christ. Et il vient se présenter un bébé dans ses bras. Et il sait par l'Esprit. C'est l'Esprit qui lui... que c'est le Messie promis. Je me mets à la place de Siméon. Là, ça devait être capotant, comme on dit en québécois. Si tu dis, Dieu a promis qu'il enverrait un Messie, et là, l'Esprit en dedans de toi-même, parce qu'il était un homme sauvé, l'Esprit te révèle. Voici mon Messie promis. Tu l'as dans les bras. J'imagine, là, pour un prophète qui est proche de Dieu, l'impression que ça a dû lui faire, ça devait être bénissant sans bon sens. Là. Quand Dieu fait une promesse, alors on voit le caractère de la fidélité de Dieu dans Genèse 3:15, le fameux passage de la promesse du Messie. Il avait dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, la postérité du malin, du serpent, et la postérité de la femme. » Et on a vu dans Galates, c'était qui la postérité de la femme? C'était Jésus-Christ, mais Jésus-Christ à venir. Ça a pris 2000 ans avant qu'il vienne. Celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme qui était Jésus-Christ, écraser la tête de Satan, et tu, le serpent, va lui blesser le talon. Alors, pour qu'on voit le développement et l'accomplissement de cette promesse-là, il faut des passages comme ça où on voit que Dieu déjà préparait le terrain à l'arrivée de toutes sortes de facteurs, la nation juive sème et tout ça. Comment ça s'est produit dans l'histoire? Hey, ça a pris 2000 ans avant qu'ils viennent. Et tout l'Ancien Testament a pour but, dans le fond, de révéler le Christ à venir dans toutes sortes dans des passages où on parle, par exemple, du tabernacle et dans toutes sortes d'autres passages où il y a des prophéties où il nous mentionne la ville, le village dans lequel il se doit venir au monde, dans quelle tribu ça doit devenir et toutes ces choses-là, il y en a énormément là. Alors, tout l'Ancien Testament voulait donner des renseignements sur la venue future de Christ, sur la venue du Messie promis. Alors, ça a commencé en Genèse 3:15, mais ça ne s'est pas accompli du jour au lendemain, ça s'est développé au cours de l'histoire. Alors, on le sait, les promesses divines, ils s'accomplissent toujours. Cependant, leur accomplissement ne sont pas toujours selon nos critères chronologiques. Regardez Paul, à son époque, déjà il croyait, il y a des passages qui nous laissent sous-entendre qu'il croyait que le retour de Christ était proche. C'est pas nouveau le phénomène de croire que ce que Dieu dit, mais de penser que c'est nous qui va le voir. Alors que des fois c'est des centaines, des fois même des milliers d'années après. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand Dieu le dit, ça ne rentre pas nécessairement dans notre cadre d'interprétation du temps, mais ça s'accomplit toujours. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le temps de Dieu et notre temps diffèrent grandement. Il a fallu 4000 ans, dans le fond, quand on regarde ça comme il faut, pour que le peuple de Dieu voit accomplir la venue du Christ promis. Alors, on va voir dans les cinq premiers versets du chapitre 5 que Dieu exécute sa parole. Il l'exécute de différentes façons. Ça dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Créa l'homme et la femme, il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Alors, comment on voit l'exécution de la parole de Dieu dans ce passage-là? Plusieurs façons. Premièrement, dans le verset 1, nous rappeler que l'homme est une créature. Aujourd'hui, est-ce qu'on enseigne dans certains milieux que l'homme est une créature? On enseigne que l'homme est Dieu. Alors ici, il y a une exécution, un rappel que tu n'es pas un Dieu, que tu es une créature. Ensuite, tu es une créature récente, dans le verset 1. Ça dit, la postérité, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Aussi, on peut voir dans ce verset-là que Dieu exécute sa parole en maintenant quand même la noblesse de l'homme malgré sa chute. Parce qu'il dit dans le verset qu'il a continué à le bénir et il le bénit. Il le fait homme et femme et il continue à le bénir malgré sa chute. Et Dieu a laissé à l'homme et à la femme la fonction de procréation. Alors, quand il s'agit de Dieu, c'est la création, puis quand il s'agit de l'homme et de la femme pour perpétuer la race humaine, et par cette perpétuation-là, amener l'accomplissement. Ça a pris du temps, mais c'est arrivé. Alors, Dieu avait ses buts, avait ses raisons pour permettre que tout ce temps-là soit nécessaire. Aussi, on voit une autre chose qui est mentionnée dans les versets 2 et 3. C'est vraiment l'idée que l'homme est fragile et qu'il tire son origine de la poussière. Parce que quand il dit « il l'appela du nom d'homme », on se souvient, quand on étudie le passage, que le mot « homme » signifie « poussière ». Alors, il rappelle plusieurs choses, l'exécution. On parle d'exécution. Dieu est fidèle à sa parole parce qu'il avait dit que tu retourneras à la poussière. Et on voit à l'intérieur du passage du chapitre 5 combien de fois « et il mourut, et il mourut, et il mourut, et il mourut ». Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ça si ce n'est pas le fait que Dieu avait dit « tu mourras ». Et malgré la longévité des patriarches, celui qui a vécu le plus longtemps, 969 ans, il n'y a pas un qui s'est rendu à 1000 ans. Alors, il reste que Dieu avait quand même, à cette époque-là, il pouvait vivre aussi longtemps que ça. Mais c'était une preuve que Dieu accomplit sa promesse dans le sens que même si l'homme avait vécu longtemps à cette époque-là, il finirait par mourir aussi. Alors, malgré sa déchéance, Dieu quand même permet des longévités de vie qui étaient quand même extraordinaires pour cette époque-là. Il y en avait plusieurs là-dedans qui ont dépassé 900 ans. On va voir qu'il y en a une exception, qui est Enoch, qui lui a vécu à 365 ans. On va voir tantôt que des fois, vivre moins longtemps, ça peut être une bénédiction. Alors, l'homme est une créature pécheresse et mortelle, parce qu'on le voit dans le verset 5, « Tous les jours d'Adam furent 930 ans, puis il mourut. » Le premier homme est mort. Donc, dans ce petit passage-là, quand on regarde, il y a au moins 7 à 8 choses qui nous sont données pour nous rappeler comment Dieu est fidèle à sa parole. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit dans les 3-4 premiers chapitres de la Genèse. Maintenant, dans les versets 6 à 20, la liste de noms nous est donnée pour nous démontrer que le Seigneur est en train de préparer le chemin pour l'arrivée du Messie promis, et de certaines caractéristiques de la vie terrestre des patriarches. Premièrement, il constitue ces noms-là qui sont mentionnés là, là, la lignée messianique. Et comment on peut savoir que vraiment ces noms-là sont dans la lignée messianique? C'est d'aller voir Luc 3. Si vous allez dans Luc 3, les versets 23-38, vous allez voir que ces noms-là sont rementionnés comme établissant la généalogie ou la descendance, la lignée messianique, faisait partie de la lignée messianique. On n'ira pas étudier Luc 3 aujourd'hui, mais c'est juste pour vous mentionner que des fois, il faut faire les liens avec d'autres passages. Alors, l'importance de la notion d'homme mortel. Alors, s'il y a une chose à remarquer durant tous ces noms-là, ça finit toujours par « puis il mourut ». Puis il mourut. Puis il mourut. N'est-ce pas vraiment une démonstration de la fidélité de Dieu à sa parole? Il a eu beau être bon envers eux, les bénir, permettre qu'ils vivent longtemps, mais quand même, ils sont morts. Alors, quand vous regardez « puis il mourut », ça vient à cinq reprises l'expression « puis il mourut ». Verset 8, verset 11, verset 14, verset 17 et verset 20. Alors, on voit que Dieu se sert de ce chaînon-là qui va les emmener à Christ, mais que la mort, à cause de la chute d'Adam et Ève, s'est installée dans leur vie. Mais il y a une chose aussi qui nous donne des caractéristiques sur les gens des patriarches de cette époque-là. Deux caractéristiques. Ça marque qu'ils ont vécu pendant un certain nombre d'années et ça dit aussi qu'ils ont engendré. Alors, la lignée continuait. Ils ont vécu un certain nombre d'années. Il y avait des fils et eux mouraient. Mais les fils étaient là. Ils continuaient la lignée. Continuaient. Il faut voir cela dans le texte parce que c'est là. Alors, Dieu nous mentionne 10 hommes dans ce passage-là de chapitre 5, 10 générations, donc, pour nous enseigner des faits importants concernant le Messie. Alors, je vais aller dans une valeur qu'on ne puisse pas vous la montrer, là, parce que on va le faire. Il y a un tableau que j'ai fait pour nous montrer deux choses. L'âge des patriarches, des 10 qui sont mentionnés, et aussi la signification de leurs noms. Et quand on lit les noms de haut en bas, on a l'histoire du salut. C'est assez merveilleux. Moi, quand tu lis ça, tu découvres ça la première fois, tu dis, mon Dieu, c'est un hasard? Ben non, c'est pas un hasard. Tout est riche dans les Écritures. Alors, bien sûr, le but de nous parler d'Adam, c'est de nous amener aussi à ce que le Messie qui va venir, c'est le second Adam. Alors, si on perd de ça de vue, là, il ne faut jamais perdre de ça de vue dans le développement de l'Ancien Testament. Alors, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50, dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, de qui il parle, là, il parle de Christ, est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Premier Adam était animal, deuxième Adam est spirituel, il est venu en deuxième. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, donc Adam était tiré de la poussière, il était terrestre. Le second homme est du ciel. Pourquoi est du ciel? Parce qu'il était Dieu, il s'est vu s'incarner dans une chair d'homme, donc le second Adam était céleste. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Autrement dit, il est en train de nous dire, comme était Adam, nous autres, on est pareil. Mais il dit, tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Alors, quand on est sauvé, on fait partie du second Adam, donc on devient céleste, nous aussi. Et il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Très intéressant. Alors, je me suis fait un tableau. J'ai marqué les noms des patriarches d'un côté et j'ai marqué l'âge à leur mort. Alors, on va les mentionner, les noms, on va mentionner les âges et on va tirer quelques observations, quelques enseignements des Écritures là, concernant ça. Adam, n'as-tu qui savent leur âge, à quel âge qu'il est mort? 930 ans. Seth, 912 ans. Énoch, 905 ans, ça c'est tout marqué dans le texte. Kénan, 910 ans. Mahalaleel, 895 ans. Jéred, 962 ans. Enoch, 365 ans. Une observation concernant Enoch est très intéressante. C'est que il a suivi le Seigneur pendant 300 ans, que le texte nous dit, et il est mort à 365. Ça veut dire qu'il a commencé à servir le Seigneur et à marcher avec le Seigneur à 65 ans. C'est vieux. Pourquoi? Le texte ne nous le dit pas, là. Mais il reste qu'il a commencé à marcher avec le Seigneur à l'âge de 65 ans, parce que le texte nous dit qui avait 65 ans quand il a commencé à marcher avec le Seigneur, puis il a dit qu'il a marché 300 ans avec le Seigneur. Et le Seigneur l'a pris, il l'a enlevé. Alors, c'est un des seuls personnages bibliques qui nous dit qu'à cause de sa marche avec Dieu, que Dieu l'a pris avec lui. Alors, Enoch, lui, quand je vous disais tantôt, quand on regarde 900 ans, on dit « Ah, c'est le fun, ils ont vécu longtemps ». Mais 365 ans, à cause du fait qu'il a marché avec Dieu, Dieu, d'après ce que je peux voir, considère que c'est une récompense, que c'est une bénédiction, que de sortir de ce monde, vivre dedans moins longtemps. Parce qu'il dit, il a marché avec Dieu pendant 300 ans, Dieu le prie. Alors, Methuselah, ben là, lui, c'est lui. Je me souviens, quand on était jeune, on ne disait pas Methuselah, on disait Mathusalem. C'est probablement que c'était écrit comme ça dans une certaine version. Mais c'est lui, l'homme qui a vécu le plus longtemps dans tous les hommes terrestres. 969 ans. C'est vraiment... Des fois, on se regarde, puis moi, je m'en vais sur 70, puis je commence à me trouver vieux. Puis 960... Fort probablement que le vieillissement peut-être produisait pas le même effet que de nos jours. Peut-être qu'il se produisait, mais peut-être vraiment beaucoup plus graduellement que de nos jours. Et là, Methuselah, après ça, on a Lémèque. Lémèque, lui, dit 777 ans. Et après ça, on a Noé, 950 ans. Oups, là, on commence à connaître des noms, là. Noé, ça nous amène où? Ça nous amène au déluge. Alors, autrement dit, on est en train de faire la visite du cimetière d'Adam à Noé jusqu'au déluge. Est-ce que le Seigneur nous donne des indices que la lignée va se perpétuer même après le déluge? Mais oui, il nous parle de Noé, que Noé, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées quand le déluge est arrivé. Il y a eu Noé, sa femme, ses 3 fils et leur fille. Et il mentionne les noms. Très important, parce qu'encore là, on sait que Jésus va venir de quelle lignée? Sem, Sémite. On dit Sem parce que Sem, les Sémites, ça vient des Juifs. Alors, les 3 lignées qui ont été les fils de Noé, qui ont survécu au grand déluge universel. Qu'est-ce que Dieu nous montre à travers de ça? C'est qu'il a été fidèle. À un moment donné, les hommes sont devenus tellement méchants que Dieu a décidé de les détruire. Mais il a décidé de les détruire en faisant grâce à un couple et à ses 3 enfants et leurs épouses. Mais qu'après, on peut continuer à voir le développement de l'accomplissement de la lignée messianique du Seigneur. Maintenant, je veux passer à d'autres choses. Je veux passer à la signification des noms. Et là, la signification des noms, moi, je trouve que c'est tellement beau que tu peux quasiment tomber à terre d'admiration devant le Seigneur, d'inclure... Parce qu'on le sait, à l'époque des Juifs, à l'époque des patriarches, la signification d'un nom était... On a déjà parlé, ça traduisait l'essence de la personne. Pourquoi Dieu a donné ces dons-là? Pourquoi Dieu a mentionné que ces dons-là soient mentionnés? Alors, on va les regarder, les noms, et après, on va lire les noms de haut en bas. Et on va voir que ça donne. Ça donne extraordinaire. Adam, c'est soit homme ou poussière, ou les deux. Seth veut dire appointé. Là, on ne fera pas la suite logique, on la regardera après. Enoch veut dire fragilité. Kénan veut dire déplorable. Mahalaleel veut dire le Dieu béni. Jéred veut dire décent. Enoch veut dire enseignant. Methuselah veut dire la mort est renvoyée. En anglais, c'est debt sent away. Mais on va voir tout à l'heure comment tous ces mots-là, quand on les lit de haut en bas, quelle phrase que ça l'amène. Les mecs veut dire conquérant. Noé veut dire repos et réconfort. C'est marqué dans le texte. Sem veut dire nom et renommée. Maintenant, prenons les mots de haut en bas et on voit que ça suit une chronologie, que ça suit du temps, du développement dans le temps. Alors, si on lit la signification des noms de haut en bas, en allant d'Adam vers Sem, autrement dit vers celui d'en haut jusqu'à celui d'en bas. Alors, on lirait la phrase suivante. Homme poussière est appointé à cause de sa fragilité, qui est déplorable, a amené le Dieu béni, qui descend, et enseignant que la mort est renvoyée, qu'il est le conquérant, qu'il est le repos et le réconfort, qu'il a un grand nom et une grande renommée. Si on ne voit pas le salut là-dedans, là, parce qu'on est aveugle. Vraiment, quand un auteur te fait voir ces choses-là, parce qu'il a étudié les mots hébreux, avec la signification des noms, et le premier qui voit ça dans le texte, il doit dire, le Seigneur enseigne même par les noms. Et il enseigne quelque chose de très... Ça peut pas être un hasard, là. On va la relire. Homme poussière, appointé à cause de sa fragilité, qui est déplorable. Alors, on voit notre fragilité dans le péché, tout ça. A amené le Dieu béni qui descend et enseignant que la mort est renvoyée, qu'il est le conquérant, qu'il est le repos et le réconfort, qu'il a un grand nom, une grande renommée. Quand on les lit comme ça, là, c'est ça que ça donne comme phrase. Si on ne voit pas le développement du salut là-dedans, mais quand on le voit, on trouve ça extraordinaire. Et ça corrige une vieille notion qu'on a que les généalogies sont plates. Ils ne sont pas plates. C'est nous qui sommes paresseux. C'est différent. Alors, tout ceci, bien entendu, c'est la signification des noms. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu révèle des merveilles à ceux qui étudient sa parole avec prière et attention. Et moi, je ne l'ai jamais fait, remarquez, mais je suis convaincu que quelqu'un qui étudie un chronique puis qui fait le même travail qu'on vient de faire là, découvrirait d'autres multitudes de merveilles. C'est plein de richesses, c'est juste qu'il faut respecter la parole de Dieu. Il dit, si Dieu les a donné, il y a toutes les raisons qu'on a dit tantôt, là. La nation juive, la succession à la royauté, la succession à la sacrificature, l'accession à la souveraine sacrificature, etc. Dans les versets 21 à 24, là, je voudrais plutôt mettre l'accent sur le passage qui parle d'Enoch. Alors, 21 à 24 se lit comme de la façon suivante. Enoch, âgé de 65 ans. Voyez-vous, il avait 65 ans. Aujourd'hui, pour nous, 65 ans, c'est quasiment considéré comme on a la pension des vieux à 65 ans. On est vieux à 65 ans. Il a engendré Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Versets 21 à 24 nous donnent des détails intéressants sur un patriarche avec une caractéristique importante. Il a marché avec Dieu. Mais on pourrait se poser la question, s'il marchait avec Dieu, comment explique-t-on qu'il ait eu une vie beaucoup plus courte que celle des autres patriarches? On serait porté à dire, bien là, vivre plus longtemps, c'est une bénédiction. La Bible nous dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu, et à cause de ça, Dieu l'a pris. Donc, des fois, une vie plus courte, ça peut être une bénédiction. Et j'ai souvent remarqué ça dans mes lectures de biographies de grands chrétiens, que souvent, pas tout le temps, mais souvent, Dieu vient les chercher jeunes. Peut-être parce que ce qu'il y avait à apprendre sur cette terre était complet et que Dieu, à ce moment-là, vient les chercher. Moi, je suis sûr que je vais mourir très vieux parce que je suis lent à apprendre. Je ne sais pas vous autres. Vous autres, allez probablement mourir jeunes. Alors, le Nouveau Testament nous apprend plusieurs choses sur Enoch. Alors, Enoch, il y a le passage de Genèse, mais il y a d'autres passages dans les Écritures qui nous parlent de cet homme-là. Quelles sont les caractéristiques que les Écritures nous enseignent sur lui? Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parût plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Aimeriez-vous ça que Dieu dise ça de vous? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Moi, j'ai bien peur que partout, que parfois dans ma vie, peut-être qu'il y a des petits bouts que le Seigneur il me trouve moins agréable. Mais lui, sa marche avec Dieu témoignait qu'il lui appartenait, témoignait la foi qu'il avait en Christ, en Dieu, et il y avait une marche droite, et Dieu, une marche droite et sainte. Aussi, si on va voir un autre passage, on va apprendre une autre caractéristique de notre ami Enoch. Jude 1, verset 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Enoch, qui était le septième dans la génération depuis Adam? Est-ce que c'est un hasard, ce septième? Le mot 7 dans les Écritures, on sait ce que ça veut dire, perfection, ça veut dire complétude, ça veut dire plénitude. A prophétisé en ces termes. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'Enoch, qui n'est pas marqué dans Genèse 5? C'était un prophète. Il a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. Donc, c'était un prophète de la venue du Messie qui déjà avertissait les pécheurs que de leur destinée. Parce qu'il dit, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Donc, on apprend quoi de notre ami? Septième depuis Adam, prophète, une personne qui évangélisait à son époque. C'est ça qui est marqué dans le texte. Il avertissait des jugements à venir. Donc, marcher avec Dieu, ça implique plusieurs choses. Une vie de foi, une vie de pleine confiance et de joie en Dieu, accompagnée d'avertissements aux pécheurs du jugement à venir. Marcher avec Dieu, c'est ça que ça veut dire. Une vie de foi, une vie de pleine confiance et de joie en lui, et aussi d'avertir les autres du jugement qui s'en vient. C'est ça qu'il a fait pendant 300 ans. Alors, c'est un gars qui avait de la suite des idées, comme on dit. Hein? Alors, n'est-ce pas ce que les Écritures nous enseignent, que nous aussi, on se devrait faire marcher avec Dieu? Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous demande encore la même chose que ce qu'il demandait à Enoch. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement. Le mot humblement est important. C'est de te rendre compte, de te rappeler qui tu es, de te rappeler des grâces de Dieu, de te rappeler continuellement ces choses-là. Alors, marcher avec Dieu implique plusieurs choses. D'abord, ça implique que la personne qui marche avec Dieu a connu la réconciliation et ça suppose un accord. Quand vous demandez à quelqu'un, on va-tu prendre une marche? Il faut que les deux personnes s'accordent, sans ça, ils partiraient chacun le bord. Ça implique un accord. On part, il y en a un qui décide, on part-tu, oui. Là, il dit, oui, on va suivre, on va aller là. Et on se discute, des fois, on peut changer d'idée. Mais ça implique que marcher ensemble, ça implique un accord. Ça implique aussi une sympathie et une harmonie. Avez-vous remarqué que c'est rare qu'on va prendre une marche avec quelqu'un qui est antipathique ou qui est ton ennemi? On marche avec des gens qu'on aime. On marche avec des gens avec lesquels on est en sympathie. Amos 3:3 nous dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » On ne peut pas marcher avec Dieu si, à quelque part, on n'est pas en paix avec lui, on ne s'est pas réconcilié avec lui, On n'est pas en accord avec ce qu'il nous dit et on n'est pas sympathique à sa cause. Ça implique aussi une correspondance de nature. Je ne peux pas marcher avec Dieu dans le sens biblique du mot si je ne suis pas régénéré, si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Ça implique aussi une aptitude morale. Marcher avec Dieu, ça veut dire que je ne mène pas ma vie comme je l'entends. Je soumets ma vie aux enseignements des Écritures. 1 Jean, chapitre 1, versets 6 et 7. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça implique aussi une volonté abandonnée. Si tu marches avec Dieu, ça laisse sous-entendre que c'est Dieu qui dirige où on va. Ça laisse sous-entendre une communion spirituelle. Et bien souvent, il faut remarquer aussi quelles sont les conséquences que les Écritures nous disent que Enoch a marché avec Dieu. Les conséquences sont très simples. Enoch fut agréable à Dieu. Quand on marche avec le Seigneur voit tous nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, il connaît absolument tout. Et il sait quand on est obéissant, il sait quand on est consacré, il sait quand on marche avec lui et quand on lui obéit. Alors, bien entendu, les Écritures nous disent que la marche avec Dieu, elle se fait par la foi. Hébreux 11, verset 6. Et troisièmement, ce que ça nous enseigne, marcher avec Dieu, c'est que Dieu honore et récompense le marcheur fidèle. De plusieurs manières. La croissance dans la grâce et dans sa connaissance, la joie, la paix, le témoignage puissant pour lui. Pendant 300 ans, à cette époque-là, on sait que les hommes étaient méchants, les Écritures. Le prochain chapitre de Genèse 6 va nous montrer que dénoncer les pécheurs dans des périodes comme la nôtre aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne se fera pas aimer à cause de ça. Mais pourtant, c'est notre devoir de les avertir quand même. Alors, témoigner, ça nous amène, si on marche avec Dieu, on va avoir un témoignage puissant. Et remarquez, l'auteur que je me suis servi faisait la remarque suivante, il dit, « Avant de témoigner pour Dieu, nous devons marcher avec Dieu, et cet ordre est irréversible. » On ne témoigne pas avant de marcher. On marche avant et on témoigne après. Alors, rappelons-nous que nous devons donner la préséance à l'adoration sur le service. Quand tu marches avec Dieu, c'est sûr que la vie d'adoration est importante dans ta vie. Alors, cet enseignement sur Enoch nous démontre qu'il est possible que notre foi devienne florissante, même dans des périodes où le mal grandit autour de nous. On va voir la semaine prochaine, on étudie Genèse 6, quand Dieu a pris la décision qu'il détruirait l'humanité. Alors, il prêchait à cette époque-là, qui devait ressembler drôlement à notre époque à nous. Aller dénoncer le péché publiquement et le faire pendant des années, pendant 300 ans, ça impliquait quelqu'un qui avait une foi très forte. Et qu'est-ce qui fait qu'on a la foi forte? Parce qu'on marche avec Dieu. C'est simple, les deux vont ensemble. Tu ne peux pas avoir une foi forte si tu ne marches pas avec Dieu. Et ça nous amène, bien entendu, le nom d'Enoch peut nous amener à la suggestion prophétique de l'ascension de Christ après sa résurrection. Il était enlevé. Alors, on peut faire des parallèles entre ce qui est arrivé à Enoch et l'ascension de Christ après sa résurrection. Et les derniers versets 25 à 32 nous continuent de nous donner les noms, les âges. Et ce qui est important, c'est peut-être le verset 29 qui nous dit, alors ici, il lui donna le nom de Noé en 10 ans. Qu'est-ce que vous croyez qu'il voulait dire quand il disait ça? Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le père de Noé voyait en son fils l'espérance que ce soit lui le Messie. Voyez-vous? Ça n'a pas lâché depuis le début, là. Ça faisait quand même un bout de temps que le Seigneur avait fait la promesse. Mais même après toutes ces centaines d'années, il y avait quelqu'un qui avait conservé la foi que oui, le Messie va venir, mais j'espère que ça va être Noé. On a su que ça n'a pas été lui, là, mais on voit que l'idée de croire que Dieu accomplit sa promesse demeure présente, un peu comme nous, notre génération qui nous a précédés, elle sait que le Seigneur va revenir, ils ont peut-être cru que ce serait dans leur génération, un peu comme nous, on croit que ça peut être dans notre génération, et ça peut être ça aussi, mais on ne le sait pas avec certitude. Alors, on apprend l'idée que Noé était considéré par son père comme celui qui pourrait probablement être considéré comme le Messie. Et là, on nous parle que Lémec a vécu après la naissance de Noé 595 ans. Il engendra des fils et des fils. Ce qui est intéressant, c'est que tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Et le dernier verset, c'est vraiment l'idée révélatrice de la finalité de la prophétie. La prophétie va finir par avoir une fin. Et on apprend quelque chose avant qu'on entame la deuxième partie de l'histoire des hommes. La première, d'Adam à Noé. Après ça, l'humanité est détruite. Après ça, à cause que Noé a déjà eu trois fils, et les trois fils vont être dans la lignée messianique, et le Seigneur va servir de sem pour accomplir la promesse qu'il a dit dans Genèse 3:15. Alors, le grand-père de Noé est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, Methuselah, 969 ans. Le passage nous révèle que le Seigneur veut nous montrer la lignée messianique jusqu'à la venue du déluge universel qui détruira tous les hommes à ce moment, à l'exception de Noé, sa femme, ses trois fils et leurs trois épouses. Alors, le déluge arriva en l'an 1656, après le début de la création. Vous allez sa petite carte en bas, là, regardez comment il s'est passé d'année depuis le début, à aller jusqu'à l'arrivée de Noé, jusqu'à l'arrivée du déluge, il y a 1656 ans. Alors, on a vu que la promesse de Dieu ne s'était pas encore accomplie au déluge, mais que ça ne voulait pas dire que ça ne s'accomplira pas. Alors, le nom de Noé est important dans l'accomplissement de la promesse du salut, puisqu'il signifie repos et tranquillité. Alors, on croit que Lémec croyait que son fils Noé, peut-être, serait le Messie. C'est donc une espérance qui est vivante et indéfectible. Alors, malgré qu'il s'est passé tant d'années, tu continues de croire que Dieu va accomplir. Un peu comme nous, on croit à la seconde venue de Christ, même si c'est passé 2000 ans depuis l'arrivée de Jésus-Christ, on sait que, oui, ça va s'accomplir, quand, on ne sait pas avec exactitude, mais on sait que ça va s'accomplir. Alors, ici, la seule chose, on peut dire que Lémec ne comprend pas qu'un maillon de cette longue chaîne, qu'il n'est qu'un maillon, son fils, et que ce n'est pas l'accomplissement lui-même. Mais cependant, on doit savoir voir la solidité de la promesse de Dieu durant la période antidéluvienne. Avant que le déluge arrive, le Seigneur a perpétué, quand le déluge est arrivé, il a quand même sorti 8 personnes et il a permis que l'accomplissement de sa promesse, on le voit s'accomplir. Alors, si on lit les Écritures avec l'idée que, dans le fond, les Écritures, l'Ancien Testament nous parle du Christ à venir et qu'on garde ça à l'esprit continuellement, et là, le livre de l'Ancien Testament devient très intéressant. Et, bien entendu, ça nous amène à faire le lien avec la prochaine étape. Après le déluge, on dit que Noé va traverser la période du déluge, mais c'est ses trois fils qui vont compléter l'accomplissement de la prophétie de Genèse 3:15. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire avec le texte aujourd'hui? On doit se souvenir, je pense, avec le texte, qu'on est des mortels et qu'on se doit de se préparer à affronter la mort parce que la vie est courte et fragile. Deuxième application, ben, on va lire le psaume 90, versets 3 et 10. Il dit, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. » On en dit retourner dans la poussière. Et le verset 10 dit, « Les jours de nos années... » Ça m'a fait réfléchir un peu, ce verset-là. On va vous le dire à vous autres, ça va peut-être vous faire réfléchir, vous autres aussi. « Les jours de nos années... » Parle de quelle année, là? Les années des hommes. « S'élèvent à 70 ans. » Moi, j'ai 109. Ça veut dire que peut-être je suis proche. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Et pour les plus robustes, ça veut dire que si je dépasse 70 ans, Dieu me considère comme étant robuste. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Voyez-vous, quand on dépasse 80, on peut dire qu'on est vraiment robuste. Parce que c'est ça que les Écritures nous disent. Et l'orgueil qu'il n'en tire n'est que peine et misère. J'ai bien peur que ce soit une vérité aussi. Des fois, on dépasse 80, mais après 80, les peines et les misères s'installent un peu aussi. Car ils passent vite et nous nous envolons. Rappelons-nous qu'on est mortels, rappelons-nous que nous sommes fragiles, que le Seigneur peut venir nous chercher en tout moment. Deuxième application, est-ce que, comme Enoch, nous marchons avec Dieu? Confiance en Dieu, joie en lui, témoignage de son évangile. Troisième application, est-ce que nos personnes reflètent l'œuvre du Messie Jésus-Christ dans nos vies et témoignons-nous avec fidélité de son glorieux salut? Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré pour notre glorieux Messie, le Seigneur Jésus-Christ.